Bonjour tout le monde, c'est Cédric pour Games in the Pocket. Et ce soir, ou aujourd'hui, ça dépend. Quand est-ce que vous écoutez notre émission, je vous présente l'épisode 139. Alors bien sûr, si vous nous écoutez, c'est que l'actualité mobile gaming vous intéresse, c'est-à-dire qu'on va parler de jeux iOS, Android, PS Vita, 3DS, enfin, tout ce qui peut se tenir entre deux mains, qu'on peut jouer partout, dans le métro, sur les toilettes, vraiment partout. Et pour m'accompagner, ben, vous venez de l'entendre, j'ai Julie.
Bonsoir. Comment allez-vous?
Ben, moi, pour l'instant, ça va.
Alors tout ce qu'on peut tenir entre deux mains, tu dis. Tu sais qu'il y a des trucs qu'on
Ouais.
n'a pas le droit d'y jouer dans le métro en public.
Je sais.
J'avoue, il y a certaines
Petit
choses qui ne sont
canaillou,
pas montrées à tous les regards.
c'est ça.
Et la personne que vous venez juste d'entendre, c'est Jérémy, alias Pépès sur Twitter.
Et salut tout le monde.
Coucou.
Alors Pépès, enfin Jérémy, viendra nous parler d'un des deux derniers jeux Pokémon qui vient de sortir sur la 3DS. Donc je pense que ça peut être très sympa.
Et oui, on peut pas passer à côté du phénomène Pokémon en fin d'année là, c'est sûr que voilà.
Ah ben on en a bouffé Pokémon Go. Et avec celui-là, c'est parti. Moi,
En
j'ai
même
donné
temps, les
une...
20 ans, fallait bien marquer le coup, quoi.
C'est exact. Sans plus attendre, on va commencer par les news. Alors, je vais commencer par... je vous en ai déjà parlé, c'est Seventh Dragon 3 Code VFD. C'est un RPG qui sort sur 3DS en France le 2 décembre. On a accès à la démo via l'eShop. Alors, j'y ai joué. Et j'ai été emballé. Franchement, ça dure pas longtemps. Enfin, je m'en suis pas rendu compte que ça dure longtemps. C'est un jeu en 3D, du moins dans les déplacements. Le but, grosso modo, dans l'histoire de ce que j'ai compris, parce qu'on ne nous dévoile pas tout, c'est qu'il y a des dragons qui sont apparus à diverses époques, depuis la création de la Terre, et que pour les étudier et pour les anéantir, parce qu'ils sont méchants, ils nous attaquent, ils bouffent tout le monde, ils détruisent tout, eh bien, on va devoir s'amuser à retourner dans le temps et à aller dans le futur. Il y a une espèce de chrono trigger à ce niveau-là. Je sais qu'il y a un... Alors, le système de combat, donc c'est du tour par tour, où en fait, il y a comme un peu à la au Shin Megami Tensei. Sauf que c'est pas mal parce qu'on voit nos persos vraiment attaquer les adversaires. On choisit la technique, le skill et tout. Apparemment, il y a un système de combinaison, mais dans la démo, ça y est pas, c'est pas à débloquer. Franchement, je pense que, comme je l'avais dit à Coach Media, dès que le jeu sort, hop, in the pocket. Ça, c'est, je le prends, je l'achète. Donc voilà. Après, je vais vous parler de Lone Wolf Battleship. Alors là, c'est un jeu. Vous savez, c'est les genres de jeux où, en fait, on incarne un vaisseau ou une station spatiale. Et où tout nous arrive dessus, de partout sur l'écran, à gauche, en haut, à droite. Donc là, ça a l'air plutôt joli. Je vous mettrai, ben, vous verrez la vidéo comme d'habitude. Il y a pas mal de power-up de ce que je vois. Il y a une histoire. Ouais, je sais pas, ça a l'air pas mal. Je crois qu'il coûte 1,99€. Je pense que bah ça va faire. Si j'ai le temps, c'est ça, parce que ce week-end il y a le TGS, donc si j'ai le temps, j'essayerai le jeu. Et je vais essayer de vous en dire un peu plus. Mais ce Lone Wolf Battleship, pourquoi pas? Ça reste du classique au niveau du système de jeu, mais avec tous les petits à côté qu'il peut y avoir, à mon avis, on peut s'éclater quelques temps sur nos appareils mobiles.
Il est assez intéressant, ce que j'ai vu, c'est surtout son gameplay, le fait de mélanger du tower defense avec justement, comme t'expliquais, un vélo qui se déplace, un véhicule pardon, qui se déplace, ça change un petit peu justement la routine du tower defense qu'on a un peu
Ouais,
vu
bah c'est
abuser
ça, ouais,
sur
parce que
tablette et
d'habitude,
smartphone. Voilà, là c'est
d'habitude
vraiment
c'est.
intéressant d'avoir ce côté de ta base et ton personnage qui bouge en même temps et du coup bah t'as un petit peu plus de stratégie parce que du coup tu peux déplacer ta base pour essayer d'esquiver des tirs etc, des vagues d'ennemis, choisir quelle vague tu vas vouloir commencer en premier, donc intéressant le concept.
Ouais, il y a un sacré énorme tactique, un passage tactique, d'où le prix, parce que au début j'étais là, ouais, bon, ça reste classique, et après, c'est vrai que quand tu déroules et que tu vois la vidéo, tu fais, ah ouais, ça change un peu du lot, quoi. Alors, mais je crois que déjà dans le dernier JTP, on en parlait, mais il y a déjà un nouveau Humble Bundle mobile. C'est impressionnant. Et cette fois, il y a dans les 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jeux pour en tout 5 euros. Donc forcément, c'est que sur Android. Alors, il y a de tout. Je crois que j'ai dû en jouer à même pas 3 de toutes les listes. Il y a 1941 Frozen Front, c'est que des jeux version premium et vous les avez tous en version premium. Il y a Guns and Glory Heroes, il y a du Tower Defense, Militaire, Ninja Hero Cats, je crois qu'on en avait déjà parlé avec Julie. Staff Dive Legends, Devils and Demons, vous verrez, il y en a énormément. Et il y en a d'autres qui vont arriver et qui seront à débloquer. Donc franchement, quand tu vois la liste de jeux, mais c'est impressionnant. Ils font, je sais pas si c'est dû au Black Friday, mais là, il y a du jeu, quoi. Pour continuer, y a Slain qui est sorti sur PS Vita, enfin normalement, parce que moi qui avais backé le jeu, j'avais en plus backé la version PS Vita. Vous savez, c'est le fameux jeu où on joue un bon gros métalleux à une époque médiévale où c'est bien gore en super pixel art et tout. Bon, il avait eu un départ très catastrophique sur PC. Je me rappelle, j'en avais parlé à l'époque sur chez Vita Perro. Et donc là, la version PS Vita, ça y est, elle est disponible normalement, mais nous les backers, enfin, et ceux de Vita Perro, je crois non plus, on n'a pas reçu encore nos codes de jeu, alors que le jeu est disponible sur PS Vita. Et ils ont aussi un petit souci, c'est que le jeu est censé être cross-buy PS4, PS Vita, et pour l'instant, ils ont y a un petit souci, donc ils sont en train de régler le problème avec Sony, donc à voir, à surveiller, mais si vous pouvez l'acheter sur PS Vita, à mon avis, s'ils ont gardé la version PC, qu'ils ont bien fait ça aux petits oignons, ça peut être balèze. Je vais rester sur les jeux et je reviendrai sur une news que j'avais mis un peu avant. Je vais la mettre à la fin parce que je pense qu'on va développer pas mal. Donc là, je vais vous parler de Demetrios. Vous savez, on avait déjà parlé, c'est un point and click fait par un Français qui devait sortir normalement fin novembre sur PS Vita, mais certains bêta-testeurs, on va dire, de la PS Vita ont trouvé un bug, voire deux.
Ah ouais?
Ouais. Donc du coup, son jeu est reporté au 6 décembre. Ce qui sera peut-être pas mal, puisque nous, du coup, on recevra son développeur dans l'émission, logiquement. Et comme ça, il pourra nous en parler très pleinement. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment un jeu à la Broken Sword, où je disais, par exemple, où on a des choix un peu ridicules, où j'avais zoomé sur la prise électrique, et puis le héros, un peu bedin, qui fait « Bon, est-ce que je mets les doigts dans la prise électrique? Est-ce que c'est une légende ?» Et moi, j'avais mis « Oui », et j'étais mort. Donc, voilà.
D'accord.
Ça, c'était assez fun.
Mais on t'a pas dit depuis que t'es tout petit qu'il faut pas mettre les doigts dans la prise?
Si, mais moi, je suis bête et disciplinée, je teste.
Bah, justement.
Surtout dans un jeu vidéo, quoi.
C'est énorme.
Après, on a le fameux studio dont on parle depuis beaucoup, souvent, très souvent, qui s'appelle Orange Pixel, qui, comme son nom l'indique, est un jeu spécialisé dans le pixel art, avec des graphismes pixel art, et qui ont énormément de jeux. Et là, pour le Black Friday, donc jusqu'à dimanche, tous leurs jeux, quasiment, Gunslugs 2, Heroes of Loot 2, Space Grunt, que j'adore, tous, de toute façon, je vous les conseille, ils sont à 99 centimes d'euros sur iOS. Alors, bizarrement, sur Android aussi, mais sur Android, c'est peut-être parce qu'il y a une nouvelle taxe, ils sont à 1,19€. Bon. Franchement, même pour 1,19€ chacun, vous pouvez foncer les yeux fermés. Ça vaut largement le déplacement. C'est souvent soit un hommage à, par exemple, le jeu sur Neo Geo où on tirait dans tous les sens, vu de profil. Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Waouh, là, ça bouge plus. Enfin bref, c'est souvent des bons gros shooters. Et de toute façon, je vais vous mettre la liste. Alors, si on arrive à publier tout avant dimanche, vous aurez accès à la promo, sinon foncez quand même sur les jeux, parce que même à prix coûtant, ça vaut le déplacement. Enfin, pour finir dans les news, parce que je pense qu'elle va être longue, je vais vous parler de la Smash Z.
La Smash Z?
Ça, on va en parler, en effet, c'est un très très bon concept.
Ouais, alors la Smash Z, c'est tout simplement une Steambox, en fait une sorte de console portable. Les gars, en plus, ils montrent qu'ils l'impriment en 3D, via une imprimante 3D. Donc, on a les fameux sticks de la manette Steam, qui permettent donc normalement de jouer comme dans une souris. Et ils montrent des vidéos où les gars, ils sont en train de jouer, par exemple, à Just Cause 2 en 720p, avec les settings en moyen, à 35 fps. Skyrim, pareil, en 720p avec un niveau de FPS plutôt correct. L'ordinateur, parce qu'en fait, on pourra jouer avec quasiment la plupart, je crois, de nos jeux Steam, si ça vaut le coup. Alors, niveau capacité...
C'est ça, ils annoncent la compatibilité avec une bonne partie des jeux Steam, et l'objectif à terme, ça serait de rendre compatibles tous les jeux Steam avec la console ordi portable, on va appeler ça, on va dire la Smash Z, comme ça, bon, il n'y aura pas d'ambiguïté. Mais ouais, l'objectif, c'est de tourner à terme tout le catalogue Steam, s'ils peuvent. Parce que bien évidemment, hardware, tout ça, il y a des compatibilités, etc., qui essaient de voir, mais il y a la liste déjà disponible sur le...
Sur la CT,
c'est quand même super
exhaustif,
hein. C'est, par exemple, t'as déjà Quantum Break qui est en cours de portage, mais d'optimisation. Donc, il y a quand même des gros AAA qui sont actuellement en cours de portage. Donc, ça peut faire mal.
Ouais, puis surtout, tu vois les specs, les spécifications. Un AMD Merlin Falcon, voilà quoi, il tourne à 2,1 GHz, il est en 4 cœurs. Il y a une Radeon R7 dedans qui tourne à 800 MHz. La version pro de la Smash, c'est dedans, il y a de la DDR4 2133 MHz. Il y a une version 8 gigabits pour la RAM et pour le disque dur, ça va de 64 gigabits pour la normale à 128 gigabits pour la Smash Pro. Donc ça va quoi. Écran Full HD 6 pouces touchscreen en plus en 1920 à 1080. Il y a du port USB 3 type C, slot micro SD, parce que les gars ils sont malins. En plus, le truc, ça peut faire console rétro, puisqu'ils proposent des sticks en option, genre les boutons.
Ça, c'est mon coup de cœur.
Ah ouais,
c'est mon coup de cœur. Les gars, ils te montrent des sticks GameCube, NES, le truc, voilà. Clairement, tu sens, vous voulez jouer au rétro, vous voulez faire un peu d'émule, mais allez-y, les gars, on a même sorti les accessoires pour vous. En gros, ça remplacerait les trackpads, si vous voyez à quoi ressemble la manette de Steam. Il y a deux petits trackpads qui servent justement à remplacer ce que peut être une souris. En gros, ça prendrait ses places, en fait, dans ces deux ronds-là. Tu pourrais mettre, par exemple, ta configuration Nintendo X, Y, etc. Tu pourrais mettre ton petit stick C de la GameCube. Enfin, c'est assez monstrueux si la personnalisation est vraiment mise en place. Ça peut être pas mal, parce qu'en plus de l'argument « Hey, jouez à tous vos jeux Steam », c'est en plus « Hey, regardez, vous pouvez apporter toutes vos anciennes consoles avec vous ».
Ouais, non, mais c'est ça. Donc, ils annoncent 5 heures d'autonomie. Ouais, voilà, la liste des jeux, c'est par exemple Metro Last Light Redux, qui est à 720p en high setting, il tourne à quand même 35 fps, donc à mon avis, tu mets en médium, ça doit être pas mal. Skyrim, 720p en high setting, 25 fps, donc t'es pas obligé de mettre en high settings. T'as du Overwatch en 720p en moyenne 30 fps. Torchlight 2, 1080, bon, forcément, en maximum de settings, t'es à 35 fps. Enfin bref, quoi, il y a même du XCOM dedans, Tomb Raider Survival Edition, qui même, lui, se vaut le coup en 40 fps. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de choses. Franchement,
bon, je vois Portal 2... Pendant que tu te déplaces, c'est quand même
Portal 2,
génial.
Mais je croyais qu'il n'était pas vendu en France. Non, je confonds avec Postal, pardon.
Ah.
Oui, non.
Autant pour moi, je me disais, que sinon c'était bizarre.
Non, oui, non, excusez-moi, c'est moi qui merdouille. Non, c'est Postal 2 qui est interdit. C'est interdit à la vente en France, en fait. Postal et Postal 2.
Ouais. Bah, du coup, ouais. Et alors, pour obtenir la dite console, ils avaient fait un Kickstarter qui a loupé. Et là, ils sont sur Indiegogo. Pour obtenir la console, c'est 325$. La version Pro, 535. Sachant que pour 325$, donc bon, bah, heureusement, t'as le chargeur, tu choisis la couleur. Et après, il existe des petites options, bon, comme par exemple, on parlait des différents pads. Il y a aussi pour avoir une coque, bon, ils ont vraiment pensé à tout. Ils demandent. Ah, bah, d'accord, pour l'instant, ils sont 190% financés. Donc au moins, ça s'est fait. Donc voilà. Alors à voir.
Puis après, le bel exploit aussi, bon, faudrait que les gens aillent voir le lien pour que ça soit plus visuel. Le bel exploit aussi, c'est surtout sur le form factor, quoi. Ils arrivent à faire tenir ça sur, allez, on va dire, pour vous donner une comparaison, quasiment un Wii U Gamepad, quoi. En
ouais,
termes d'empattement d'épaisseur, mais aussi en termes d'encombrement, on arrive quasi à un Wii U Gamepad. Donc pour un écran 6 pouces et surtout pour le monstre de puissance qu'il y a derrière, franchement, chapeau, quoi, les gars. Si vraiment c'est la version finale qui ressemble à ça, voire même un peu plus light, belle prouesse technique, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est franchement, à ce niveau-là, ils ont fait fort, donc on verra bien. On va suivre ça. En plus, quand tu vois la pub qu'ils ont autour, à mon avis, même Forbes, ils en parlent. Alors bon, c'est que ça va loin à ce niveau-là, quoi. Donc bah voilà, on a fait à peu près le tour. De toute façon, on va vous mettre le lien, vous allez voir. C'est plutôt pas mal du tout. Alors à voir ce que ça va donner. À suivre, parce que c'est quand même prévu, je crois, la livraison mai 2017, je crois. Donc c'est bon, après il risque peut-être y avoir des retards, on verra bien. Et puis bon, ben maintenant on va laisser la place, Jérémy, t'as qu'à te présenter, et puis ensuite tu nous parles de ton Pokémon, du jeu Pokémon sur 3DS.
Mon jeu Pokémon à moi. Oui, donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis Jérémy, donc vous pouvez me suivre sur Twitter avec le surnom Pépèze, voilà. Ancien chargé d'études à médiamétrie pour tout ce qui était le pan média, donc jeux vidéo et aussi tout ce qui était études internet. Et ancien rédacteur pour Android pour les lunes, d'où mon intérêt pour tout ce qui est gaming, mobile, etc. quoi. Et du coup, oui, Cédric et Julie m'ont gentiment invité aujourd'hui pour vous parler du phénomène actuel dont on ne peut pas échapper, Pokémon Soleil et l'une qu'on appellera Sun and Moon, puisque j'ai trop le réflexe maintenant de les dire en anglais, donc désolé pour les francophones.
C'est pas grave, donc, écoute, nous aussi on se vandamise de temps en temps.
Voilà, c'est ça, un peu de vandame, ça fait toujours un peu de bien. donc Pokémon Soleil, comme disait Cédric, les 20 ans, quoi, après Pokémon Go forcément. Il fallait bien sortir un nouveau jeu. Grosse attente pour Pokémon Sun, il faut être honnête, parce que dès les premiers trailers ils nous ont un peu annoncé comme le renouveau de la série, comme l'épisode qui allait totalement affranchir toutes les barrières qu'on connaissait dans la saga, donc gros pari. Et pour y répondre clairement, vu que je suis déjà bien avancé, en sachant qu'il y a à peu près 4 îles, je suis déjà à la 3e, donc bonne avancée dans le jeu, je pense que je suis entre 50 et 70%. Pour moi, après, je vais en revenir après, ça peut diviser. Pour moi, le pari est réussi. Par contre, ça peut énormément diviser, parce qu'en effet, il y a énormément de choses qui ont changé, que ce soit la direction artistique, le gameplay, le système de jeu. Du coup, on peut aimer ou pas. La première chose qui change, c'est les visuels, hein, on va pas s'en en cacher. On avait eu avec X and Y le passage à la 3D, enfin. Il était temps, on sait que Nintendo peut être réticent sur certaines choses, mais voilà, ils sont enfin passés. Et là, on a enfin un look beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire que ton personnage, tu le vois enfin en taille réelle, que tu sois en combat ou dans la rue. Quand, un petit détail tout con, mais qui joue l'immersion, quand tu es dans une route, etc., et que tu croises un dresseur, c'est réellement le visage du dresseur que tu vois après dans le combat. Ils ont enfin modélisé des PNJ, etc., donc une grosse immersion sur ça,
etc. Il était temps, là.
Il était temps, justement, comme tu dis, à un moment donné, on est quand même au 21e siècle, on est quand même en 2016, Nintendo a enfin pris conscience que, ça serait bien d'avoir un jeu un peu plus immersif, un peu plus réaliste, si on peut parler ça comme ça, parce que forcément, quand on parle de jeux Nintendo, notamment Pokémon, leur design n'est pas forcément réaliste, mais en tout cas dans le déroulement, donc sur ça, franchement, ils ont enfin progressé, ça fait plaisir, quoi. Techniquement, ça tourne super bien, donc après, moi, je suis sur une 3DS, parce que je sais que sur les anciennes 3DS, il y a quelques petits ralentissements, mais sur une 3DS, franchement, ça roule impec, même en combat, même quand t'es en 2 contre 2, c'est nickel, quoi. Et puis, surtout, moi, je fais partie de ceux qui adorent le chara-design de la 7ème génération, quoi. Je veux dire, les Pokémon qu'ils ont choisis, enfin, niveau cuteness, c'est juste, je pense que depuis la 2ème génération, on n'avait pas vu ça, quoi. Enfin, voilà. Moi, je suis totalement fan, donc...
ça se voit.
Ça s'entend et ça fait plaisir.
Après, on va arriver sur les points qui peuvent fâcher. C'est vrai qu'ils ont énormément changé le gameplay Pokémon. Déjà, ça c'est une bonne chose, donc on va dire que c'est dans les points positifs, on peut enfin se déplacer de manière entièrement libre, ce n'est plus quadridirectionnel, tu peux enfin te mouvoir en 3D intégralement, tu peux enfin te déplacer en diagonale.
Champagne, ils ont découvert le 8 pad, 8 directions.
Ouais, non mais c'est ça quoi, 2016 Nintendo quoi. Donc voilà, ça fait vraiment partie des trucs qui sont positifs. Après voilà, clairement ils ont changé tout, c'est-à-dire que tu n'as plus d'arène, tu as un fonctionnement un peu moins linéaire dans la ville, donc pour faire les choses dans l'ordre. En gros, maintenant, t'as 4 îles. Tu voyages île après île. Donc ça, c'est cool parce que déjà, dans la manière dont on t'introduit dans le jeu, il y a vraiment ce côté beaucoup plus, je trouve, exploration qui avait un petit peu manqué dans les anciens Pokémon. En gros, dans les anciens Pokémon, quand tu commençais, t'avais le professeur qui venait, qui disait « Hey, c'est génial le monde des Pokémon, voilà comment les attraper, etc. » Dans Pokémon Sun and Moon, c'est pas du tout ça. Tu mets un quart d'heure d'histoire avant d'arriver à « Ah, en fait, comment ça marche à Pokémon ?» Là, on te voit, t'arrives à Alola, la nouvelle région, tu es vraiment en train de vivre son déménagement et tout. Donc, en gros, Nintendo essaie de te de t'impliquer, de te personnaliser dans le personnage qui arrive dans ce nouveau monde. Et en gros, c'est vraiment le but de ces premières 15 minutes, c'est de te faire découvrir la région, de t'émerveiller, parce que franchement, ça aussi, c'est une grosse réussite de Nintendo. La région d'Alois est juste merveilleuse. C'est juste émerveillant. Tu te sens accueilli, enfin, en même temps, en prenant Tahiti, pardon, tu pouvais que avoir ce côté très solaire, très accueillant, etc. Mais voilà. Du coup, ces premières 15 minutes, c'est vraiment à ça. Et du coup, bah, c'est un peu ce qui se retrouve dans tout le cours du jeu, en fait. Tu vas dans l'île, tu te balades, etc. Et du coup, c'est là où pour moi je trouve que c'est cohérent d'avoir supprimé les arènes, parce que t'es plus dans cette optique d'aller capturer les Pokémon, créer ton équipe et de faire la meilleure équipe du monde pour affronter le leader de la gym. Là, ton but, c'est d'explorer une île, de te balader, et du coup, bah, naturellement, tu vas faire des épreuves, ce qui remplace les arènes. C'est-à-dire que quand tu vas te balader dans une île, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5 épreuves selon les îles. Et ces épreuves, ben, c'est des mini-jeux, si on peut appeler ça comme ça. En gros, tu vas avoir, sans spoiler, je vais donner quelques petits exemples. Ça va être, tu vas avoir une petite danse au Satter. Ils vont prendre une pause. À toi de savoir quelle était la bonne pause ou pas, parce que ça va être un jeu d'essai de différence. Tu vas aller devoir chercher des ingrédients, etc. Donc, beaucoup plus mini-jeux, donc, beaucoup plus casual. Donc, ça peut te déplaire à certaines personnes. Mais du coup, moi, je trouve que ça va dans cette idée de, on explore, on découvre une région. Après, il y a quand même toujours un combat final à la fin de chaque île. Tu as quand même le doyen de l'île, tu as ton combat badass, ton combat épique dans une arène où tu dois aller fighter un doyen qui a une spécificité, donc Pokémon de roche, Pokémon d'eau, etc. Donc sur ça, ça a été conservé quand même. Mais du coup, le déroulement est beaucoup moins linéaire, on a moins ce côté, je dois aller dans la ville, je vais aller chercher quelques Pokémon et après je vais aller fighter le leader. Donc après, c'est moins linéaire sur ce point-là. Par contre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus linéaire au niveau de la narration. C'est-à-dire que, bah, du coup, ton île, elle est magnifique, tu vas aller explorer, mais on va te dire, il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu ailles là-bas. Sinon, bah, tu vas être coincé. Donc, c'est vrai que sur ça, par contre, c'était un beaucoup plus sur un rail qu'avant. Donc, du coup, c'est un peu dommage que Nintendo ait fait un petit peu ce parti pris un peu bizarre de dire, hey, on va vachement miser sur l'exploration, mais en même temps, tu fais pas ce que tu veux. Bah, ouais, c'est là où moi, pour moi, il y a le gros point noir de Pokémon Soleil et Lune, c'est il aurait fallu vraiment axer à fond le jeu sur l'exploration, quoi. Là, du coup, ils font les choses un peu à moitié, on va dire, quoi.
C'est
Ah, mais ouais,
dommage.
c'est
c'est que c'est par rapport. Ça me fait penser au tweet que tu avais mis que tu cherchais comment aller dans une grotte ou je ne sais plus quoi et.
Ouais, c'est ça. Bah, du coup, ouais, y a le côté exploration, c'est bien, mais du coup, il faut aussi mettre à jour. On a dit, c'est génial, ils sont passés à la 3D, c'est génial, ils sont passés au Wiipad, etc. Ouais, il faut encore revoir certaines choses. La carte, les gars, on est en 2016, c'est bien, hein. On a toujours le même système de cartes où tu as juste une petite partie de la région, par exemple la route 3. On va dire tout ce qu'il y a dans cette route 3, mais du coup, quand tu vas aller sur ta map, tu ne verras absolument pas où se trouvent les points précis. Enfin, tu le verras, mais de manière grossière. À un moment donné, c'est aussi là où ça le bas blesse. Nintendo est des fois un petit peu trop vieux jeu sur certaines choses. Et là, je pense que ouais, pour la prochaine génération, ce serait bien qu'ils bossent un peu plus sur ça, sur le côté exploration, et du coup, revoir un petit peu la carte, etc., quoi. Après, bah, le deuxième gros changement, c'est clairement les combats. Là aussi, c'est vrai que. Après, on va dire c'est un parti pris. Je pense que c'était après la vague Pokémon Go, et on avait plein de gens, on va essayer d'attirer des nouveaux joueurs. Du coup, c'est vrai qu'on peut considérer que les combats étaient un peu simplifiés. Donc déjà, t'as toujours le Mythic XP qui permet de faire level up, cheater ton équipe quand c'est pas permis. Mais bon, après, ça tombe mieux, hein, pour ceux qui veulent faire du level up pour toute l'équipe, ça facilite la chose. Mais surtout, maintenant, quand tu es en combat, dès que tu as battu un Pokémon ou que tu l'as capturé, tu peux du coup, la prochaine fois que tu rencontres ce Pokémon, connaître tes attaques super efficaces. C'est-à-dire que parmi tes quatre attaques, quand tu vas être face à un Pokémon, on va te dire cette attaque est efficace, super efficace ou pas du tout efficace. En gros, on va totalement orienter pour dire, hey, tu sais pas comment battre ce Pokémon, utilise cette attaque. Donc
Ouais,
oui,
c'est hyper
c'est vrai.
simplifié, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est clairement fait pour apporter de l'aide aux nouveaux joueurs. Après, bah, les vieux, la vieille, ils ont pas besoin de ça, donc tu fais pas gaffe. Moi, enfin, même moi, le premier, je fais même pas forcément toujours gaffe au truc. Après, ça peut être aussi utile pour moi, hein. Tu vois, par exemple, je suis un ancien joueur Pokémon. Après, j'ai skippé pas mal de jeux, notamment sur la période DS, tout ce qui était bah, blanc et noir, etc. Du coup, il y a pas mal de double types que je connaissais pas à fond et tout. Bah voilà, c'est vrai que ça peut donner petite aide. Après, t'es pas obligé d'utiliser non plus. Donc après, ceux qui critiquent le côté casual, oui, c'est vrai, c'est un peu plus casual, c'est un peu plus facile. Après, tu peux aussi t'abstraire de toutes ces aides et qu'on continue comme avant. Donc partant de là, il n'y a pas trop de soucis. Après, le truc le plus cheaté, c'est quand même les ennemis. Ça, clairement, oui. C'est vrai que d'avoir supprimé, donc. Tu as toujours les méga évolutions, mais en gros, elles sont pas directement dans le jeu, tu les auras à la fin du jeu, une fois que la ligue est finie, ou alors si t'as importé ton propre Pokémon. Du coup, en tant que tel, tu les as plus dans le jeu, ça a été remplacé par les mouvements, enfin, je sais plus comment ils appellent ça en anglais, des Z-moves, quoi. En gros, t'as un cristaux pour chaque type de Pokémon, eau, feu, etc., qui te permet, une fois par combat seulement, d'utiliser en gros une méga attaque, à la Final Fantasy avec invocation, screen magnifique et tout. Du coup, oui, ça clairement, c'est un peu cheaté, c'est-à-dire que si tu tues son Zenmove sur le bon Pokémon, tu peux le one-shot, même s'il est 10 ou 15 niveaux au-dessus de toi, quoi. Si t'as le bon, par exemple, c'était un Pokémon haut, bah, c'était un bon Pokémon haut, par exemple, et qu'en face, t'as un Pokémon feu, je sais pas, on va dire, toi, t'es niveau 20, lui, niveau 30, tu peux le one-shot, limite, presque, si tu fais un super efficient à côté. Voilà. Donc, ça y est, sur ça, voilà. Tout ce
mais
petit
du
côté-là.
Où... j'ai une question à te poser, parce que du coup, là, tu parles sur PS Vita ou PS.
Non, 3DS.
Non, 3DS, pardon. Et du coup. Ça va être que sur 3DS, ils vont, ils vont étendre un peu ou ils comptent faire un petit peu des mises à jour sur Pokémon Go, comment ça se passe?
Alors,
c'est pas lié,
sur 3DS, il y a la petite rumeur, on en verra si ça sortira sur Switch, il y a la petite rumeur d'elle, il y aurait peut-être une troisième version, etc. Et Pokémon Go, ouais, toujours mis à jour, hein. Là, par exemple, je crois que c'est aujourd'hui ou demain, ça a commencé, il y a un nouvel événement, on pourra avoir du double, même du triple XP, il y a enfin, merde, comment il s'appelle le Pokémon, j'ai perdu son nom. Celui qui peut prendre n'importe quelle forme, et j'ai totalement oublié son nom. Parce que
je le connais pas.
Ouais, bref. C'est Morph quelque chose.
Ouais, voilà, Morph quelque chose qui est disponible depuis aujourd'hui, et en gros, ouais, clairement, vu tous les legs qu'il y a, je pense que les prochaines gènes vont pas tarder à arriver sur Pokémon Go, quoi.
Oui, ils ont prévu, la deuxième génération, elle est prévue, là.
En même temps, ils sont pas bêtes, hein. J'ai vu que Pokémon Sun au Japon, c'était 2 millions d'exemplaires vendus en 4 jours, aux États-Unis, c'est le meilleur démarrage. Clairement, ils se sont opposés sur Pokémon Go. Pokémon Go a fait un peu l'effet, et revenez vers la franchise Pokémon, et. Au fait, n'oubliez pas qu'on sort en jeu. Et du coup, ils vont forcément continuer sur ce cycle de.
Ah, ben, ils ont même écrasé une licence qui devait cartonner si Pokémon Go n'était pas sorti, c'était Yo-Kai Watch, quoi.
Ouais, non, mais c'est ça. Bon, c'est pour ça, ils sont pas bêtes. Hein. Sur Pokémon ça, ils ont compris que le mobile pouvait leur être utile pour populariser et mettre en avant leur franchise principale. Mario Run, ça sera exactement le même système. Ça va être, ouais, c'est génial Mario, mais n'oubliez pas. C'est cool le jeu sur mobile, mais les vraies versions, c'est sur console. C'est là où ils ont été intelligents Nintendo aussi, c'est sur cette vision assez complémentaire de le mobile peut servir nos consoles classiques et non pas l'un doit supprimer l'autre, en fait. Sur ça, ils ont été intelligents quand même.
Ouais, ils s'amusent à faire des complémentarités ou des offres d'appel du genre hop, regarde ce qui arrive. Parce que, enfin, quand tu vois le prix du jeu du Mario Run, t'es là. Eh ben, mon gars,
c'est pas donné, hein. Clairement, les gars, ils disent, essaye la démo, mais du coup, si tu veux l'acheter, c'est quoi, c'est déjà? C'est presque 10 balles, je crois, c'est 9 dollars et quelques. Donc,
ouais, c'est ça, ouais.
Le prix d'un vrai jeu, quoi. Donc, après, c'est ça aussi où c'est intelligent. Ceux qui voudront l'acheter, l'achèteront. Ceux qui voudront pas acheter, ça va faire produit d'Apple. Ah, bah tiens, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Mario. Au fait, n'oubliez pas, on vend la NES Mini. Ah, bah si vous voulez rejouer, mettez 59 balles et achetez une NES Mini, ça vous ferait un peu de nostalgie. Sur ça, ils sont très intelligents. Enfin, on pourra leur reprocher pas mal de choses. Au niveau communicationnel, certes, c'est une communication un peu à part, un peu décalée, mais ils sont forts aussi sur ça quand même.
Oui, ils seraient très bien, ouais.
Ouais, donc voilà, après sur Pokémon Sun, pas plus, hein, voilà, gros changement, un peu plus casual, mais après moi, franchement, sur ça, j'ai bien aimé, parce que comme je t'ai dit, ça, bah, c'est l'une des rares fois où justement, j'ai pas été sur le côté, il faut que je fasse la meilleure équipe, mais plutôt, bah, ça c'est peut-être l'effet Pokémon Go, hein, je sais pas, mais plutôt, il faut que je les attrape tous. Alors qu'à d'habitude, justement, j'étais plus dans l'idée de délire, faut vraiment que je monte mes Pokémon de niveau et tout. Là, le but, vraiment, pour moi, avec Alola, c'est là où ils ont réussi un bon pari. Donc, certes, comme je dis, il peut y avoir pas mal de critiques sur le côté, c'est un peu linéaire, c'est un peu simpliste, c'est un peu gamin, etc. Moi, ça a été tout l'effet contraire, c'est le côté, avec la région d'Alola, ils ont réussi à vraiment créer un petit émerveillement qu'il n'y avait plus longtemps dans Pokémon.
Ah,
un rajeunissement. Ouais, voilà, c'est ça, un petit côté, comme je dis, c'est autant les pages, le chara-design, enfin, je sais pas, tu te sens immergé, donc je sais rare, après ça joue aussi sur le fait que maintenant tu vois enfin les PNG, tout est enfin en 3D, etc. Mais même, enfin je sais pas, quand t'es sur la plage, que tu vois le sunset, etc., parce que t'as toujours le cycle jour-nuit, etc., t'as des petits paysages comme ça qui sont beaux, et du coup, ouais, vraiment, c'est ce côté exploration qui, moi, m'a énormément plu, et je trouve quand même, c'est un peu décevant, j'aimerais limite qu'ils y aillent à fond et qu'ils se disent, allez, le prochain Pokémon, soit on fait un spin-off, soit on s'affranchit du modèle classique, et on tente un jeu vachement plus sur le côté exploration, quoi. On s'affranchit des gyms et tout, et le but, ça va être de découvrir une région, de découvrir les Pokémon de la région, parce qu'après tout, c'est ça le principe d'un jeu Pokémon, et c'est là où ils ont été intelligents, d'ailleurs. Je l'ai pas dit, c'est l'un des derniers points, je pense que je vais dire. On a enfin un lien avec notre Pokémon. C'est-à-dire que tous les trucs un peu gadgets qu'il y avait, je crois que c'était sur XY, alors j'ai plus le nom, en gros, j'ai plus le nom du truc, mais un peu la Tamagotchi, tu pouvais nourrir ton Pokémon, le caresser, lui faire des petits soins et tout, ouais, c'était génial, ça va à rien, clairement. Là, pour le coup, ils ont été intelligents. Ils ont pris exactement le même système. Tu nourris ton Pokémon, tu le caresses. Alors, un peu plus utile, c'est-à-dire qu'après un combat, tu peux soigner, par contre, cette fois-ci, des effets. C'est-à-dire ton Pokémon est paralysé, il est brûlé. Bah, de la même manière que tu peux lui donner à manger ou le caresser, bah, tu peux soigner gratuitement, sans rien du coup, ce Pokémon. Et du coup, s'il a beaucoup d'affection, etc., ça va vraiment se ressentir dans le jeu. C'est-à-dire que déjà, ça va se ressentir visuellement dans le jeu. Par exemple, j'ai mon Pikachu qui m'aime bien perdre en combat. Et surtout, ça a des effets en combat. C'est que ton Pokémon fait beaucoup plus d'attaques super efficientes. Et surtout, il esquive des attaques. Donc pour le coup, on a enfin un lien Pokémon Dresseur qui apparaît dans ce jeu, qu'on n'avait jamais eu avant, cette petite synergie. Ce côté, il faut vraiment que tu sois à l'attente de ce que te dit ton Pokémon, parce que justement, il va te dire s'il a faim, s'il a un truc comme ça. Là, du coup, ça se reflète enfin dans le jeu. On a enfin un jeu Pokémon qui est centré sur ça, sur le côté notion d'élevage, si on peut parler de ça comme ça. On a vraiment plus cette conception-là qui n'est pas dans les autres jeux. Donc vraiment, sur ça, je trouve que voilà, c'est des paris un peu osés, mais du coup, voilà. On aime ou on n'aime pas, mais je trouve que au moins, Nintendo tente des choses différentes. Ils essaient de s'affranchir un petit peu et double la franchise. Donc après, voilà. Ça
Ah,
plaira ou
c'est
ça
bien
plaira
ça.
pas, mais au moins, ils tentent.
Non, mais ils ont raison, en fait, hein.
Bah oui, de toute
Donc
façon,
après, voilà.
ils seront jamais perdants. Hein.
Oui, là, en plus, comme j'ai dit, on le voit bien sur les chiffres de vente, pour le moment, c'est un cartonné. Donc, voilà quoi. Donc, ouais, non, pour le moment, vraiment satisfait de ce jeu-là. Bonne révolution. Et puis, même au niveau du scénario, je trouve que c'est un peu plus. Alors, pas forcément, on va pas dire ça parce que justement, c'est assez léger et enfantin, mais plus scénarisé, justement, en fait. Les anciens jeux, comme on l'avait dit, hein, c'était, ouais, tu dois aller battre les leaders de gym, tu dois aller capturer tes Pokémon, t'as une team qui, pour X raisons, veut la domination du monde, ou alors un idéal absolu de, il faut recréer le monde pour repartir à zéro. Là, c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus travaillé. Comme je t'ai dit, tu commences le jeu, t'as quasiment, sans faire le Marseillais, 15 minutes d'introduction, donc entre cinématique et phase de gameplay, mais où tu ne joues pas avec des Pokémon, juste tu te balades et tu parles à des PNJ. 15 minutes d'introduction, ça prouve bien qu'ils essaient vachement plus de scénariser. T'as beaucoup, beaucoup, alors pareil, ça peut déplaire, mais t'as beaucoup, 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 beaucoup plus de cinématiques qui sont du coup pas trop mal réalisées, parce qu'ils ont réalisé avec le moteur du jeu, donc pas de mauvais effets de transition, etc. Donc sur ça, ils ont vraiment essayé de pousser un peu plus. Les personnages secondaires sont vachement plus travaillés, on sent qu'ils sont un peu plus, un peu plus tranchés, chacun a sa propre personnalité, ils sont moins stéréotypés. Puis ils sont beaucoup plus mystérieux. La team actuelle, là, qui a dans le jeu Team Skull, tu comprends un peu ses intentions, mais tu sens qu'il y a un leitmotiv derrière qui est caché, qui est pas encore dévoilé. Pareil, la fondation, alors, je sais pas comment on le prononce très bien, Aether ou Aether, la fondation qui essaie de sauver les Pokémon, tu sens que c'est un peu chelou ce qu'ils te racontent. Donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils essaient de faire ce qu'il n'y avait pas dans les anciens jeux Pokémon. Ils essaient de, et sur ça, ça c'est aussi pareil, c'est un peu innovant. Donc après, ça reste bon enfant, c'est un humour très second degré, voire troisième degré. La Team Skull, c'est clairement, limite, des bofs marseillais, quoi. Enfin, pas marseillais, parce qu'on va pas viser un public en particulier, mais des bofs, quoi. Enfin, tu le sens au niveau des jeux de mots. Donc après, voilà, il faut tout prendre au troisième degré, parce que c'est fait pour. Mais voilà, vraiment, sur ça, ils ont vraiment fait un effort sur les jeux de mots, et du coup, sur la traduction aussi en français, parce que du coup, il faut traduire ces jeux de mots et ces chutes narratives, etc. Donc, sur ça, vraiment, il y a un gros effort qui a été fait. Donc, bravo. Sur ça, vraiment bien. Donc, comme j'ai dit, bon renouveau. Ça peut plaire ou pas déplaire, mais pour moi, personnellement, c'est un grand oui, parce que, au moins, ils prennent le risque. Écoute, ça qu'il faut aussi à un moment donné, quand t'as une série de jeux qui arrive en vingtaine d'années, à un moment donné, il faut pas non plus trop se poser sur les lauriers. Il faut aussi avoir, je m'excuserai les termes, les couilles d'y aller un petit peu et de vouloir un peu bousculer la hiérarchie. Et voilà, c'est cool qu'ils tentent ça. J'espère maintenant qu'ils vont pas de nouveau se reposer pour le prochain, bon, 1, 2 ans, on verra, et qu'ils tenteront encore un petit peu de peaufiner tout ça, notamment au niveau des combats, où là, c'est que c'est la seule chose où ça peut, voire pas du tout changer. Donc, ça serait bien que, je sais pas, qui rendent ça un peu plus dynamique, on va dire quoi. Voilà.
Ok, bah merci, je pense qu'avec ça c'est assez complet. Et bon bah moi je verrai si je me tâte. Déjà vu que je vais me prendre le 7, le 7e dragon là, sur 3DS, j'attendrai pour ce qu'on disait en off la dernière fois en DM, j'attendrai un peu pour prendre ce Pokémon. Hein.
Ouais, c'est sûr, vaut mieux pas trop accumuler trop de jeux.
Non,
C'est
non.
moche d'accumuler des jeux. Ils sont là, ils attendent qu'on y joue, et on n'y joue pas, on les rend tristes, c'est pas au jeu.
Bah ouais, c'est ça quoi. Et du coup, on va laisser la parole à Julie qui va nous parler en premier de Checks and Fidget.
Oui, je vais vous parler de Shakes and Fidget.
Welcome to the magical world of Shakes and Fidget, the funny and award-winning online role-playing game. Go on epic quests, level up, and challenge other real gamers, and explore spooky dungeons with your friends. Play now for free on sfgame.us.
Donc c'est un petit jeu en fait qui existe depuis assez longtemps en fait, parce que là il a subi des updates cette année au mois de novembre, mais en fait c'est un jeu qui existe depuis assez longtemps, qui existe à peu près depuis 2013 je crois. Donc c'est pas du tout un jeu nouveau. C'est un jeu que j'ai connu via une amie, en fait, qui m'a dit « Ah, tiens, ça devrait te plaire et tout, c'est un jeu de rôle, machin. » Alors, évidemment, c'est un jeu à énergie, un jeu de rôle assez basique, en fait. Tu peux jouer comme ça, genre, tu lances une mission, tu fais autre chose, voilà. Et c'est un petit jeu façon Héros Zéro, en fait. Sauf que là, c'est très héroïque fantasy, avec des tronches pas croyables, des histoires à la con, des trucs comme ça. Par exemple, admettons, tu vas à l'auberge, tu vois, t'as un pauvre gars ou une pauvre gonzesse là, qui a attablé, à moitié affalé sur sa table, genre il m'arrive une merde, genre peux-tu m'aider, tu vois, par exemple, j'ai pas mal d'ennuis en ce moment, j'espère que tu pourras me filer un coup de main ou je risque d'être sérieusement dans le pétrin. Viens que je t'explique mes problèmes, tu vois. Donc après, il te propose trois quêtes différentes. Donc le golem de terre, l'esclave du marchand, le commanditaire encaissé. Donc admettons, on fait l'esclave du marchand. Donc là, il t'explique. Bienvenue, j'ai quelque chose de super important à te proposer. Tu dois accompagner le vieillard sage à Norville et ne vends rien en route. T'as capté le truc? Et du coup, c'est un langage assez actuel en fait, mais tout ça sur fond médiéval, tu vois. Et à côté de ça, tu peux construire évidemment ton château, tu peux construire ta base, entre guillemets, donc le château, tu as des écuries, tu as des mines, tu as des machins, tu as des trucs, de façon à ce que ça te ramène des pièces d'or, du matériel pour pouvoir construire, des trucs comme ça. Donc en fait, il est assez complet. Ça fait très BD quand tu regardes les images qui te sont proposées. C'est pas le jeu tout kawaii, mais c'est franchement un jeu vachement rigolo, quoi. Clairement. C'est le jeu farfelu par excellence. Donc c'est tout mignon, c'est gratuit. Ça se joue sur une foultitude de supports différents puisque ça se joue sur iOS, sur Android, sur Facebook, sur Steam. Donc
Ouais, t'emmènes le jeu où tu veux, quoi.
tu fais ce que tu veux avec ton jeu. Donc ça c'est pratique. Là par exemple, tu peux l'emmener. Moi j'avais commencé à y jouer sur. Enfin j'avais commencé il y a longtemps à y jouer sur iPhone et puis après il a fallu que je fasse un choix parce que je pouvais pas tout mettre dessus parce que j'avais pas assez de mémoire donc je l'avais enlevé. Après je suis retombée dessus par hasard sur Facebook donc je me dis, ah mais je me rappelle de ce truc. Hop je me suis refait une petite séquence revival. Je me suis dit tiens mais c'est vrai qu'il existe sur iOS donc hop je l'ai repris. Et du coup, j'ai pu coupler avec Facebook, récupérer mon compte, tu vois. Donc, tu peux
Ah,
poursuivre ta
ça, à ce
partie.
niveau-là, c'est bien. À ce
Ah,
niveau-là, c'est
c'est
bien.
super bien.
Ah, j'avoue, c'est cool les jeux qui permettent comme ça du cross-perform avec la reprise de sauvegarde et tout. C'est vraiment cool. Tu
Ah
peux l'amener,
ouais.
comme tu dis, partout, quoi. T'es
C'est
chez toi, tu vas chez un
super bien.
pote, toi, tu fais ce que tu veux avec, quoi.
Tous les jours, tu peux lancer une petite roue pour gagner de l'or, des matériaux, des champignons rouges. Les champignons rouges, c'est un petit peu les gemmes du jeu, quoi. Voilà. Donc après, tu fais tes quêtes, tu peux affronter aussi d'autres joueurs si tu le souhaites. Évidemment pas quand tu es déjà en pleine quête, en fait. Parce que tu peux pas faire deux choses à la fois, c'est logique en même temps. Ça reste somme toute très logique. Donc là, quand tu lances une partie, donc tu acceptes, en général, ça dure un certain temps. Au bout du temps écoulé, paf, tu reviens, tu récupères ton personnage, tu vois le petit combat se dérouler. Alors en fait, le combat, c'est vachement sommaire. Hein. C'est du type Hero Zero, hein. T'as l'image de ton personnage, l'image du mec en face, et puis tu vois les coups qui partent entre les deux, hein, c'est tout. T'as pas une vraie animation, quoi. Mais ça reste. C'est rigolo. C'est le jeu. Ouais, c'est le jeu farfelu. Moi, j'aime bien les trucs un peu farfelus comme ça, tu vois. Et c'est pareil, t'as les. Le matériel, c'est un petit peu n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le collier de champignons du pauvre en endurance. D'accord? Ça vous
En
capte,
effet, c'est
hein?
farfelu.
Voilà, j'ai la veste pimpante du pauvre en endurance. J'ai le morceau de tissu avec bandelette de celui qui fait des efforts.
Moi, n'empêche, j'ai déjà celui qui a trouvé les noms, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis, du coup, en fait, t'as toute une petite ville. Alors, la ville, bah, t'as le bar, t'as l'auberge, t'as l'écurie, t'as l'endroit où tu peux trouver une guilde ou créer une guilde. Et du coup, tu peux aussi avoir des gemmes supplémentaires. Parce qu'en fait, t'as deux marchands. C'est marrant parce que leur tête, au début, elle est assez pimpante, tu vois. Alors, tu cliques sur leur image. Et puis là, en fait, tu les réveilles. T'as l'impression d'arriver en plein milieu de la nuit. Le mec, il est en pyjama avec son doudou sous le bras, tu vois. Puis il te regarde avec le bonnet de nuit de travers sur la tronche. Genre, mais qu'est-ce que tu viens me faire chier? Tu veux quoi? Tu veux du matos, ça peut ou quoi? Tu veux genre, tu vois. Donc en
T'as vu
fait,
l'heure, quoi?
ouais, c'est ça, c'est pas l'heure. Donc non, non, c'est vraiment rigolo. Après, bon, t'as un truc avec des sorcières, alors j'aime bien parce qu'il y a marqué, les sorcières n'existent pas. Qui t'a dit qu'il y avait une sorcière ici? Personne avant le niveau 66, ça c'est sûr. Donc, moi, je suis pas encore niveau 66, donc pour l'instant, j'ai pas le droit à la sorcière, mais C'est marrant comment c'est dit, quoi.
C'est beau, ces petites références, ouais, j'avoue, c'est sympa.
Ouais, voilà. Alors après, t'as plein de trucs, tu vois. Alors, t'as, je vois là sur le premier truc où tu fais tes combats, tu gères tes combats avec les autres, contre les autres joueurs, tout ça. Tu gères pas mal de choses. Donc, par contre, quand t'es en cours de voyage, ben, t'es en cours de voyage, donc tu peux pas faire ton petit truc. Et t'as un truc, t'as un chiotte de dessiner. Alors, tu cliques dessus, parce que c'est intriguant quand même, tu vois, tu as un chiotte. Et là, c'est marqué « Toilette ». Ah, les toilettes, il n'y a pas beaucoup d'activités ici, dernièrement. Quelqu'un a perdu une maudite clé. C'est embêtant. Donc, on raconte que cet endroit spécial a quelque chose de magique. Cependant, ce genre de porte de toilette fermée a déjà résisté à de nombreux aventuriers costauds et bien armés. Mais en fait, tu sais pas ce que c'est. C'est juste des chiottes, en fait. C'est rien. T'as juste ça.
C'est complètement barré, quoi, le jeu.
Mais ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est complètement ça. Alors après, je vois que bah, c'est couplé au Game Center, évidemment. Et tu peux même publier des trucs sur Twitter. Mais là, je me dis que je vais pas pouvoir ma timeline. La timeline de ceux qui me suivent, tu sais.
Tant merci, que c'est pas automatique, ça va.
Le bon spam.
Arrête, ça me rappelle un jeu que j'avais chroniqué dans Game in the Pocket il y a quelques temps. C'était une espèce de démineur survival versus zombie, tu vois. Genre, t'avais une petite bonne femme, tu devais faire un démineur, quoi. Donc, t'avais des zombies qui traversaient la map. Il fallait que tu évites les bombes, il fallait que tu les marques, et il fallait que t'arrives à l'autre bout de la carte et que tu fasses tout péter pour faire péter la gueule des zombies, quoi. Et en fait, c'était une petite bonne femme qui avait retrouvé son amoureux pour la Saint-Valentin, en fait, l'histoire, le pitch du truc. Et en fait... je suis désolée, je perds le fil parce que Cédric me dit de me dépêcher sur ma feuille, sauf qu'il y a une petite voix qui me parle en même temps que je parle. C'est complètement con comme truc. Faut arrêter. Du coup, le mini-jeu que j'avais chroniqué à cette époque-là, en fait, il balançait des phrases à la con à chaque fois que tu finissais un niveau sur Twitter. Du genre, c'est un cerveau que t'as dans ton pantalon ou t'es content de me voir, tu vois. Enfin, c'est des trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Et alors là, je me dis... J'ose pas le mettre parce que si ça balance des phrases à la con, je vais encore me faire pourrir.
J'avoue, selon les phrases, ça peut être sympatoche si elle est pas aiguillée.
Ouais, voilà. Donc, bah, écoutez, moi, j'aime beaucoup ce petit jeu. Alors, c'est vrai, encore une fois, c'est pas le dernier né de la famille des petits jeux mobiles. Mais en même temps, je pense que ça vaut le coup de s'y arrêter ou d'y retourner, se faire une petite séquence revival. Voilà, j'en ai fini avec mon petit jeu. C'était Shakes and Fidget.
Bah, tu veux enchaîner sur le second ou j'enchaîne et... Parce que Julie, elle a deux jeux aujourd'hui, alors.
Et pour une fois.
Bon, allez, toujours honneur aux femmes, vas-y.
Oh la vache.
Donc,
Trop de galanterie.
Ouais,
trop de galanterie, ouais. Tu la galanterie, en fait.
Ouais, c'est le milieu de semaine, c'est pour ça. Moi, je me rattraperai ce week-end.
Oh,
j'écraserai des fleurs.
J'écraserai des fleurs.
Oh, le cliché.
Le vieux cliché. Tu sais, genre, ah, puisque c'est ça, je vais aller me rouler dans les plates-bandes. Allez, hop.
C'est ça.
C'est complètement con.
Donc, eh ben, le second jeu de Julie, c'est Turbine Fighter.
Oui, c'est Turbine Fighter, aka le guerrier de la turbine.
Turbine Fighter. Build and customize your very own robot in this action-packed, futuristic game based on real physics. Test your mech against your friends via QR codes. Suit up and get ready to take on the world. Turbine Fighter, now available on your mobile phone, free.
Donc, je vais vous parler de Le Guerrier de la Turbine. Non, en fait, on blague là-dessus parce que c'est la traduction qu'ils ont mis sur la version Android du jeu, le guerrier de la turbine. C'est, en fait, le guerrier de la turbine, t'as l'impression que c'est un truc, tu vas faire un truc avec des mecs bourrés, tu vois, je sais pas.
C'est ça, t'as l'impression que c'est un peu un jeu que tu vas faire à 4 heures du mat, quoi.
C'est ça, c'est ça. Alors qu'en fait, ce jeu, en fait, c'est un jeu de combat. En fait, tu crées un robot, un mini-robot de combat. Du coup, t'as un truc qui ressemble vaguement à... comment il s'appelle les Autobots, là, et tout ça, là.
Ouais, genre... Transformers, c'est un peu...
Ouais, ça m'a fait penser un peu à Transformers. Je me dis, c'est quoi ce truc? Et du coup, tu... Alors, au début, t'as tout le didacticiel qui t'apprend comment monter un robot. Tu peux acheter le bras droit, le bras gauche, la tête, le corps, les chenilles, tout ça, tout ça. Et puis après, du coup, bah, t'affrontes d'autres joueurs. Ou alors, tu as un mode de temps en temps pour essayer de gagner un peu des thunes. C'est un mode course. Il faut que tu réalises une petite course en un temps imparti, en fait. Donc, alors, Par contre, je trouve ça pas hyper sexy à utiliser. C'est-à-dire que des fois, tu te dis là, moi, je me dis tiens, j'augmenterais bien un petit peu les capacités de mon robot. Bah, depuis tout à l'heure, je galère à fond pour augmenter les capacités de mon robot. Je trouve pas. C'est un petit peu compliqué. Et alors, par contre, pour combattre, il n'y a pas de souci. Hein. Tu vas sur la map classique. Et puis sur la map, bah, tu as le mode histoire, le mode versus. Et puis, tu as le mode boutique, en fait. Après, tu as du PVP. Tu peux faire plein de trucs. Tu as des événements aussi après. Et du coup, tu as plein de choses. Tu ramasses des objets quand tu réussis les combats et tout ça, tu gagnes de temps en temps soit des pierres, soit des trucs qui vont te permettre de fabriquer des choses, ou du métal qui vont te permettre de fabriquer des choses pour ton robot, en fait. Donc, c'est assez complet quand même, mais malheureusement, pas sexy tellement à utiliser. C'est ça que je lui reproche à ce jeu. Il est gratuit, hein, vous pouvez y aller tranquille, peinard. Mais ouais, non, c'est sympa. J'aime bien voir mon petit robot se démener, puis du coup, j'aime bien... tu as un système de boost, c'est-à-dire que faut pas l'utiliser trop longtemps, parce que sinon, après, tu n'as plus rien dans le sachet, donc il faut que tu l'utilises avec parcimonie. Il faut arriver finalement à détruire soit la tête, soit le corps de son adversaire, soit tout ça, soit le pousser de temps en temps. Quand tu es en versus, tu as une lame de scie circulaire, en fait, dans le dos des robots. Et du coup, tu peux repousser ton adversaire jusqu'à ce que tu l'embroches sur la scie, en fait. Donc, moi, ça m'a fait penser un peu à quand dans The Big Bang Theory, ils jouent avec les robots.
oui, le combat de robots, là.
Le petit robot qui se sauve parce qu'il y a celui de Barry Kripke qui les poursuit avec une espèce de lame de ouf. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être drôle. Donc, au début, tu as un tout petit robot de rien du tout. Après, tu lootes des pièces, tu peux en construire un deuxième au cas où. Parce que j'imagine qu'il y a certaines histoires où tu vas pouvoir utiliser les deux, ou l'un après l'autre peut-être. Et du coup, après, plus tu avances dans le jeu, évidemment, plus ils sont un petit peu évolués, ou tu as des trucs vraiment particuliers. Tu peux avoir carrément le mannequin éco robot, tu vois, tu as des trucs comme ça. Puis en fonction de ce que tu as, soit ils mettent des pins, soit ils essayent de soulever l'adversaire. Tu as plusieurs types de jeux, quoi, en fait. Et du coup, c'est mignon, c'est drôle, c'est sous forme de petits jeux de rôle comme ça où t'as ton personnage, il rencontre d'autres joueurs, tu upgrades ton perso à toi, après ton perso à toi, il upgrade son robot, tu vois, c'est marrant. Et puis tu peux le peinturlurer de n'importe quelle couleur, tu peux faire plein de trucs. Donc c'est customisable à l'infini, et du coup, voilà. Non mais c'est mignon, et bah, pour tous ceux qui aiment bien les petits robots, les petits trucs un peu geeks et tout ça, bah... Ben moi, je pense que ça peut être vraiment sympa. Alors, peut-être qu'il y en a qui seront un peu plus doués que moi pour upgrader. Mais, mais sinon, ouais, non, c'est vraiment chouette. Non, j'aime bien. J'aime bien. En plus, c'est couplé au Game Center. Tu peux réaliser je vais y arriver.
Hein, des achievements.
Des exploits.
Ouais, merci, des exploits. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Alors, pour l'instant, j'en ai pas débloqué encore. Hein. Je suis en plein dedans. J'ai commencé plein de trucs. Je ne les ai pas finis encore. Donc c'est mignon tout plein. C'est Animoca, je crois, qui fait ça. Ouais, c'est ça, Animoca Brands qui fait ça. Et du coup, c'est sympa aussi. C'est pas le coup de cœur comme Shakes and Fidget, mais c'est un bon petit jeu rigolo, assez kawaii finalement. Et tu peux faire un petit robot façon guerrier, ou tu peux le faire un peu façon kawaii rose, tu vois, avec des trucs et tout. Il y en a pour tous les goûts. Et donc, bah voilà, je le recommande quand même, Turbine Fighter.
C'est noté. Eh bien moi, pour ma part, je vais vous présenter un jeu dont j'ai déjà parlé dans Games of Pocket, mais ça fait tellement longtemps et il a tellement évolué depuis que je vais vous en parler. C'est tout simplement Terra Battle. Alors Terra Battle, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, ça a été créé par un monsieur pas très connu, hein, il s'appelle juste Hironobu Sakaguchi. Hein, c'est juste le papa des Final ouais. Fantasy.
Voilà, c'est ça.
Il est pas très... ouais, ça va.
Ouais, je veux dire, pour commencer à faire du jeu vidéo et monter sa propre boîte, c'est pas mal dans son CV. Créateur de F1, 2, 3, 4, enfin bref, quoi.
Je vois pas du tout de quoi tu parles.
C'est pas mal, sans compter Last Order sur une autre console de Nintendo, enfin bref, quoi. Et puis bon, avec lui, pour la musique, bah, il a juste un petit gars, pareil, qui fait un peu de piano, qui s'appelle Nobuo Uematsu, hein, pareil, lui aussi, il a un peu bossé sur DFF, on va dire. Donc voilà, ils ont créé Miss Walker, et parmi les jeux de Miss Walker, il y a Terra Battle. Alors Terra Battle, et je vous en avais parlé il y a très exactement un peu plus de 2 ans, parce que j'étais sur la bêta canadienne, puisqu'il y a quelques temps, j'ai reçu mon 520e jour de jeu, à peu près. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est Terra Battle ? C'est un jeu où c'est vu de dessus. Enfin, les combats, c'est vu de dessus. Nos personnages sont représentés par des grosses icônes, des cartes, et tout le plateau est un damier. Alors, le damier, ce qui est bien, bon, il y a quand même des décors de fond parce qu'il y a un sacré scénario. Et donc, comment ça se joue ? Pour faire simple, lorsqu'un ennemi apparaît donc sur une case, en début de chaque tour, le but, c'est qu'avec nos deux personnages, enfin, au début, on n'en a pas beaucoup, on n'en a que 3, 1, 2, 3, il en faut toujours minimum 2, s'il ne reste qu'un personnage, un seul de nos personnages sur l'écran, on a obligatoirement perdu, puisque pour éliminer un adversaire, il faut l'encadrer. C'est-à-dire qu'il faut être soit à sa gauche et à sa droite, soit au-dessus de lui ou en dessous de lui. On peut même carrément l'encadrer avec 4 personnages autour, parce qu'il y a certains skills qui permettent, certains personnages ont un skill qui inflige 50% de dégâts supplémentaires si un adversaire est entièrement entouré. Donc, comme ça, ça paraît sympa. Donc en fait, on décase sur un énorme damier virtuel nos personnages pour essayer de détruire les adversaires. Les adversaires ont la même technique que nous, c'est-à-dire qu'ils doivent se placer, ils doivent nous encercler, enfin en gros nous mettre en sandwich pour pouvoir nous éliminer. Il y a aussi un système pour cumuler de la puissance d'attaque. C'est, par exemple, si j'ai 3 personnages, je vais en aligner 2 l'un à côté de l'autre, et avec le troisième personnage, je vais le mettre de l'autre côté de l'ennemi pour le mettre en sandwich, et ça fera donc attaque plus 1. Et au fur et à mesure qu'on va avancer comme ça dans le jeu, nos personnages, ils vont level up. Et quand ils level up, ils débloquent des skills. Et c'est là tout l'intérêt du jeu, parce que chaque personnage a vraiment un style et des skills différents. Genre par exemple, il y a Grace, la trappeuse. Alors oui, le jeu a une bonne partie traduit en français. Et du coup, c'est une archer. Alors bien sûr, il y a plusieurs classes, hein. Archer, épée, lancier, magicien, et bien sûr, vous avez l'épée qui est plus fort que l'archer qui est plus fort que le lancier, et tout le monde est un peu plus fort que le magicien, quoique ça dépend. Et donc, par exemple, c'est quand même le papa des FF, hein, chaque personnage, enfin du moins, oui, personnage principaux, on va dire, a 3 jobs différents. Donc il garde la même classe, archer, on va dire. Et arriver à partir, par exemple, du level 1, grâce à la trappeuse, elle débloque défense plus 10% pour elle-même. Ensuite, arriver au level 15, elle va débloquer méga arc. Ça veut dire qu'elle va infliger des dégâts à toutes les caisses qui sont autour d'elle sur une case. Après, elle va augmenter ses PV. Ensuite, elle a plusieurs jobs. Elle a un autre job où elle inflige, par exemple, moins 10% à tous les ennemis. Elle fait moins 10% de défense à tout le monde et moins 30% si ce sont des ennemis animaux. Elle en a même un pareil pour les dragons. Et puis, plus tard, quand on arrive au level 65, elle peut déclencher des flèches empoisonnées. Après, il y a aussi, par exemple, des personnages qui ne font que d'huile. Et qui ont la capacité, par exemple, alors pareil, c'est un jeu à énergie, et on a aussi un temps limité pour déplacer nos personnages, parce que sinon ça serait trop simple, on déplacerait comme on voudrait tous nos personnages pour les aligner parfaitement et mettre tous les ennemis en sandwich, et puis même s'ils sont éparpillés sur l'écran, non, on a une barre qui fait X secondes, Et on a certains personnages qui débloquent une capacité de pouvoir ajouter deux secondes. Donc c'est souvent eux que j'utilise pour déplacer les autres. Parce que soit on prend un personnage et on le déplace nous-mêmes. Par exemple, j'ai un ennemi, il a déjà un de mes personnages sur sa gauche, au-dessus de lui ou en dessous de lui. Et bien je vais seulement déplacer un personnage pour lui foncer dessus. Et pour le coller, le mettre en sandwich. Mais sinon, on peut utiliser un personnage, comme ceux qui contrôlent le temps pendant plusieurs secondes, et s'amuser à déplacer tous les autres, pour pouvoir bien les placer et faire très mal. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis que j'en ai parlé il y a un peu plus de 2 ans ? Déjà, il y a l'arène. Ça n'existait pas. Où il y a un mode spécial dedans, avec des events. Donc, par exemple, comme c'est le papa d'FF, on peut débloquer les grosses invocations, comme Bahamut, Odin, et je crois aussi, parce que je ne l'ai pas trop utilisé, celui qui fait la glace, tiens, j'ai oublié, Odin fait la glace et un qui fait la foudre. Sachant que Bahamut, pour l'obtenir, il faut donc faire son histoire, alors au début c'était que sur 3 chapitres, c'est-à-dire qu'on faisait le premier chapitre, donc on fait plusieurs petits combats, et après on tombe contre Bahamut qui est le boss. Sachant qu'un boss, il prend 4 cases au lieu de 1. Donc on peut s'amuser à l'entourer avec 4 de nos gars, par exemple à gauche, à droite. Et bon, faut bien placer nos personnages parce que Bahamut, il a des attaques aussi bien horizontales que verticales. Mais ça, on peut le savoir à l'avance. C'est-à-dire qu'avant de déplacer tous nos personnages, on peut laisser notre doigt appuyer sur n'importe quel ennemi et on a la liste d'attaques qu'il va faire. Et souvent, elles sont dans l'ordre, comme nous. Nos personnages, quand ils gagnent des skills, faut savoir qu'il va pas il va pas déclencher dès le premier tour tous ses skills. Faut qu'il joue, faut le faire jouer, ou faut même le mettre en mode support pour qu'il débloque, si vous voulez, ses skills pendant le combat. Même s'il les a déjà acquis, pour qu'il rentre en compte, faut le faire jouer. Donc le Bahamut, après on a un taux de drop pour l'avoir. Donc il faudra refaire plusieurs fois Bahamut pour l'obtenir. Une fois qu'on l'a obtenu, c'est pas fini. Après, il faut qu'on débloque ces deux autres jobs, parce que comme tous les mobs, il a différents jobs. Le mode jusqu'au dernier job, où il y en a un quatrième, alors là, c'est ce qu'ils avaient encore appelé recode, c'est-à-dire qu'on réencode certains personnages. Alors, il y en a de plus en plus, même des personnages qui, au début, étaient plutôt normaux et qu'on réencode, c'est-à-dire qu'ils dépassent le level 65. Faut que notre personnage soit level 80 partout. Donc déjà, faut le monter jusqu'au level 80 dans ces 3 jobs. Donc croyez-moi, c'est long. Même s'il y a énormément de niveaux, c'est assez long.
Ah, j'imagine.
Et il faut en plus récupérer différents items. Et par exemple, pour Bahamut, il faut récupérer, je crois que c'est une lance qu'il faut obtenir. Mais pareil, qui a un taux de drop assez limité. Ça doit être genre du 3%. Donc, et on a un nombre de jours limité pour essayer de tout débloquer. Donc il y a pas mal de petits events comme ça. Donc là par exemple il y a Bahamut, et puis il y a un personnage aussi qui est plutôt intéressant qui s'appelle Lucia l'exploratrice. Elle, c'est pareil, il faut faire son histoire et détruire des ennemis dans un certain ordre. Parce que quand il y a... Alors heureusement, il y a un énorme Wikia avec une énorme communauté. Parce que par exemple, pour obtenir Lucia et ses personnages secondaires, il faut tuer des ennemis dans un ordre bien précis. Et quand on tue les ennemis dans un ordre bien précis, ça va créer des chemins bien précis. Genre par exemple, oula, celui-là, si vous tuez ce personnage, il va dire une phrase, genre « Oh, j'aime pas les archers, donc faut lui envoyer, lui coller 1 ou 2 archers, le tue avec. » Si on fait pas ça, on aura par exemple le chemin A, et on aura Lucia, mais que à X%. Et ses compagnons, pareil.
Ensuite, mais du coup, si tu fais pas le chemin adéquat tout de suite, est-ce que tu peux revenir en arrière, faire le
bon chemin ?
Ah
oui, bien sûr, tu peux le refaire autant de fois que tu veux. Mais bien sûr, comme c'est un jeu énergie, par exemple, pour faire un combat, pour le premier combat de Lucia, ça va te coûter, par exemple, 15 points de vigueur. Enfin, d'énergie, si tu veux. Et par exemple, si tu commences et que t'en as 30, en gros, tu peux le faire que 2 fois.
Mm-hmm. Ouais, t'as pas intérêt à louper, quoi.
Ouais, voilà. Et donc après, il faut attendre que la barre se recharge. Mais bon, au début, ta barre, elle se recharge assez vite. Moi, par exemple, j'ai 64 points de vigueur, là. Donc, pour l'instant, je peux faire des combats... Je peux faire des combats et tu vois, j'en suis au chapitre... oui, parce qu'après, je vous raconterai une anecdote qui est assez chiante. Tu vois, moi, par exemple, si je fais un combat du mode story, là où j'en suis, dans le chapitre 17, ça me coûte 13 points de vigueur pour faire un combat. Et pour finir un chapitre, il y a 10 combats dans un chapitre. Donc tu vois, il me faudrait 130 points de vigueur en tout si je fais 13 fois 10 pour le faire en entier. Donc je peux pas faire en une seule fois.
Ouais.
En une seule fois tous les combats, tu vois, d'affilée. Mais vu que j'ai que 64 points de vigueur, je peux jouer plusieurs fois. La barre se recharge assez vite, quoi. Et je suis pas obligé d'attendre, même si la barre est à moitié et qu'il me reste que deux combats avant d'arriver au boss, c'est-à-dire au chapitre 10. Voilà, quoi. Une fois que le chapitre est fini, ben forcément, ça me remonte ma barre de vigueur et ça me rajoute des points de vigueur.
Mais ça a l'air vraiment sympa, ce jeu.
Non, mais il est ultra complet. De plus, à chaque fois que tu finis un chapitre, tu gagnes un point d'énergie. Et à chaque fois que tu as 5 points d'énergie, tu vas dans la taverne et tu fais recruter. Et là, tu débloques. Tu peux débloquer aussi bien des personnages de classe C, B, A, S, SS et Z. Donc, c'est les rangs, quoi. Forcément, plus le personnage a un rang élevé, donc Z, plus il sera difficile à monter. Parce qu'il faut savoir que à chaque fois que tu avances dans le mode story, tu débloques des zones qui s'appellent les Metal Zones. Tu vas voir par exemple la Metal Zone 1 qui va de, si je me plante pas, de 1 à 20. Ça veut dire que pour level up tes personnages, tu vas dans cette zone métal, donc ça te bouffe de l'énergie, mais tu rencontres des ennemis qui ne sont là que pour XP tes personnages.
C'est bien pensé, ça.
Donc tu multiplies en fait le level up tes personnages, quoi. Et quand tu as fini par exemple toute ta suite de combats, donc en moyenne il y en a 5, tu choisis soit tu répartis légalement, équitablement tout l'XP à tous tes personnages, ou quand tu veux par exemple XP que certains personnages, par exemple tu as des levels, soit tes personnages ils sont tous level on va dire 35 dans leur premier job, et t'en as un ou deux parce que tu veux absolument ce skill là, parce que ça va te permettre d'avancer mieux dans l'histoire. Et il est qu'au level 5, et ben tu dis moi tous les personnages qui sont inférieurs à ce level auront de l'XP. Parce que par exemple si je vais dans la zone 1, tous mes personnages qui seront au-dessus du level 20 ne gagneront 0 XP. Donc des fois c'est pas mal de prendre des gros persos qui pourront tuer facilement tous les mobs level 20. Comme ça toi tes persos qui sont level 1, ils level up à une vitesse phénoménale. Donc ça sert aussi à augmenter les jobs. Donc pour chaque job qu'on veut, même si on a les bons, même si on pense qu'on a le bon niveau pour level up, il faut choper des objets. Ces objets, on les a en tuant différents types d'ennemis. Donc des objets, mais c'est varié, c'est anneaux de feu, queue d'animaux. Enfin, c'est monstrueux. Il y a certains objets que tu ne peux avoir que dans certains events. Mais il y a un truc qui est bien fait. J'avoue qu'il pousse pas la consommation, c'est qu'il y a énormément d'events du genre dans tel chapitre, tu as le taux de drop d'items est augmenté. Pour obtenir certains monstres, tel jour, c'est level up. Chaque jour, il y a des events complètement différents. Certains, comme les zones, comme les metal zones qui te permettent d'XP, t'en as qui sont consacrés juste pour ramasser des objets précis, comme des anneaux, comme je disais tout à l'heure, les queues de fourrure et compagnie. Tout ça, parce que ça permet de level up et de débloquer tous les jobs de tes personnages.
Après, c'est bien, ça offre aussi une bonne durabilité, parce que vu que tu as forcément des events chaque jour et tout, ça te pousse à revenir et tout, donc c'est bien pour
ouais, voilà, moi, je t'ai dit, moi j'étais arrivé à un niveau de ma première session où j'avais des personnages, mais j'avais que le choix de personnages level Z et SS, quoi, tu vois. Donc, avec des carrières monstrueuses, genre le Bahamut, je l'avais réencodé. Donc, ça veut dire, et en plus, quand tu réencodes, alors ça veut dire qu'il lui faut tous ses jobs level 80. Donc, déjà, t'as du boulot. Mais après, il repasse au level 1 une fois qu'il est réencodé. Mais l'avantage.
Ah, bah oui, sinon, c'est trop facile.
Ouais, mais l'avantage de réencoder, c'est que tu peux choisir n'importe quel skill de tes 3 jobs.
Ah, c'est bon ça.
Parce qu'en fait,
c'est énorme.
Déjà de base. Un personnage, quand il obtient son second job, donc par exemple, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu veux, de base, il a 4 skills que tu débloques jusqu'au level 65. Après, il a 1, 2, 3, encore 4 skills, barres de skills vides. Et ces barres de skills vides, ce sont les skills que tu peux aller choper dans tes deux autres jobs. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. En fait, ouais,
à chaque fois qu'elle va level up, qu'elle va changer de job, elle va avoir une spécialité dans chacune de ses jobs, ouais, en plus d'archer. T'as même certains personnages, dont un qui s'appelle Suo. Son premier job, il est archer. Son second job, il est... son premier job, il est épéiste. Son second job, il est archer. Son troisième job, il est lancier.
Alors, sachant que... Belle complémentarité, oh.
Ben ouais, parce que du coup, tu peux switcher... avant chaque combat, bien sûr. Enfin, avant chaque chapitre. Chaque combat que tu veux faire dans un chapitre, tu peux switcher, mais préparer tes skills, tu vois. Parce que des fois, tu vas arriver...
Ça te permet d'avoir du coup une équipe polyvalente grâce à certains personnages qui, justement, eux-mêmes sont complémentaires et polyvalents, quoi.
Ben, c'est exact. Parce que des fois, tu vas arriver dans un chapitre où tous les ennemis, c'est que des ennemis de feu. Et là, tu fais « Ok, j'ai rien contre le feu. » Et là, tu regardes dans tes personnages, tu fais « Oh, mais celui-là, il crée des capsules. » Alors ça aussi, c'est pas mal. Des capsules de feu. C'est-à-dire que si un personnage... il y a une capsule qui se crée n'importe où sur l'écran. Si un personnage s'aligne dessus comme il s'alignerait avec un de ses potes, eh bien, du coup, il est protégé contre le feu.
Donc, ouais, c'est pas mal, ça.
Il y a énormément de systèmes au niveau de ça. Et donc, le Bahamut, une fois que tu as débloqué, que tu l'as réencodé, tu peux choisir sur donc les 8 casques que tu as, 8 skills de ces 3 jobs. Plus les skills qui débloquent pour son réencodage, dont un, le maximum, c'est météore. Ça balance des météores sur tout l'écran, quoi. Aléatoirement, ça fout des boules de feu partout sur l'écran, quoi.
Le jeu est bordel.
Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vois, par exemple, Bahamut, c'est pas un personnage qui est très fort quand tu le colles à un ennemi. Par contre, si tu le mets en soutien, c'est-à-dire que tu l'alignes avec un autre de tes personnages, c'est là qu'il va envoyer météore, qu'il va envoyer toute sa puissance, quoi. Et il y a aussi, ils ont rajouté aussi assez récemment des compagnons. Alors ça, ce sont des personnages ou des items que tu rajoutes en plus sur tes personnages. Donc, par exemple, t'as les épées, tu peux prendre une épée qui de base est classée, mais une fois qu'elle est au maximum, c'est l'épée de Masamune.
Ah ouais.
Donc, ça va faire sur 3-4 cases sur une ligne. Ça va toucher tous les adversaires. Tu peux mettre un personnage spé feu, protection contre la glace. Parce que par exemple, ce niveau-là, tu as besoin d'une protection contre la glace, donc tu t'amuses à augmenter tous les anneaux de glace que tu as, et tous tes personnages seront complètement protégés contre la glace. Tu as les personnages qui permettent de faire revivre les healers, qui permettent de faire revivre le tour suivant. Enfin, une fois que tu as fini ta première vague d'ennemis, quand les autres ennemis apparaissent, de faire revivre un de tes personnages. T'as ceux qui protègent contre la mort. T'as ceux qui permettent d'utiliser la mort, par exemple. C'est-à-dire que ça peut one-shot un ennemi.
Quand même.
Enfin, voilà. T'as je ne sais pas combien de personnages et de jobs différents.
Ouais, j'avoue, au niveau stratégie, mise au point et tout, c'est assez monstrueux. Ils ont vraiment pensé à tout, quoi. C'est cool, quoi.
Ouais, c'est...
Ouais, et c'est free-to-play. Et franchement, en tout, j'ai dû donner... Bah, pour les soutenir, je crois que j'ai donné 4 euros, je crois, en tout. 4 ou 5 euros en 2 ans. Mais sinon, t'en as pas besoin.
Et du coup, ils se
ouais, bah, comme tu dis, avec les events et tout, ça qui est bien, c'est qu'ils sont intelligents. Avec les events, t'as à la fois le côté durabilité, on te fait venir chaque jour sur le jeu, mais il y a le côté aussi, comme tu dis, et évite de devenir trop un free-to-play, entre guillemets, quoi.
C'est ça. Et il y a même un mode système coop qui joue avec d'autres joueurs. C'est pour battre des boss. Un peu comme un MMO, quoi, tu vois, comme une arène.
Et t'as un mode versus aussi. Online, quoi.
Ouais, et t'as un mode versus aussi. Et, tu peux aussi, et ça, c'est une grande force, tu peux enregistrer tes combats et ce qui fait que des fois si t'es bloqué sur un combat parce que tu sais absolument il y a un boss mais tu galères dessus et en fait des fois mais c'est des trucs auxquels tu penses pas, t'es là mais putain mais j'y arrive pas, ça m'énerve et tout, pourtant j'ai les meilleurs personnages, mais des fois c'est juste que t'as pas la bonne classe ou le bon skill pour un personnage, tu vois, et des fois un personnage va te changer tout le combat, et donc comme tu peux enregistrer tes vidéos, y en a, ils partagent comment battre tel ou tel boss, la communauté est super active.
Du coup il y a une bonne communauté, quoi.
Ouais, et tu vois aussi, comme certains items sont assez rares, assez difficiles à avoir, dans le Wicca, t'as quasiment tous les jobs de tous les personnages. C'est vrai que tu peux regarder, enfin, parce qu'après c'est les goûts et couleurs, t'en as, ils vont te dire, ouais, mais lui il est pas bien parce qu'il fait que X en attaque, patati patata. Donc, tu as tous leurs jobs.
Moi, tu peux expérimenter, quoi, grâce à la communauté, ça qui est bien, quoi.
Ouais, voilà. Soit tu expérimentes et tu découvres tout toi-même. Ben, moi, c'est ce qui s'est passé, puisque du coup, j'avais commencé dès le début. Donc, j'ai pas mal expérimenté, et j'avoue qu'après. Quand je commençais à être un peu chaud niveau item, quoi, ben je regardais les jobs et je me disais, ah ouais, bon, est-ce que ça vaut le coup que je craque X items pour lui parce que par exemple il faut en trop de pierres abandonnées alors que j'en ai un autre personnage que je viens juste d'avoir, est-ce que ça vaut le coup plutôt que ce que je les donne à lui? Enfin, tu vois, tu te poses certaines questions parce que puis ah ouais mais là ce chapitre j'ai pas tant besoin de cette classe mais j'ai plus besoin de cette classe donc je vais plutôt d'abord level up ce personnage. Donc moi des fois je me fais des séquences où je fais pas du tout l'histoire, je fais que level up mon personnage où je pars à la recherche comme dans un MMO de tel objet pour crafter mon personnage pour pouvoir le changer de job quoi.
En tout cas, il est magnifique hein, ce jeu.
Ah ouais, et puis les musiques, bon bah les musiques, bon, non seulement il y a Uematsu, mais.
Ouais, voilà, j'allais dire, c'est pas n'importe qui s'en charge, quoi.
Ouais,
c'est
voilà, ça. T'as Yoshitaka, y a Amano, hein, y a Suzuki, enfin, de Seven Deadly Sins, par exemple, la série. Enfin, y a Yoshimori Kitase, ils ont des chara-designers, enfin, que voilà, avec la réputation
qu'il a. Ouais,
voilà quoi, ils ont un énorme merchandising qui est plutôt pas mal de certains personnages, il y a l'OST du jeu, enfin, et franchement il y a des persos, tu t'y attaches, ils sont vraiment, en plus tu t'y attaches parce que tu les fais évoluer, il y en a que t'as depuis le début, tu dis mais toi je vais te garder jusqu'au bout, tu les mets dans chaque combat. Alors un truc qu'il faut savoir par contre, moi j'ai une version iOS, une version Android, parce que ma version iOS c'est ma plus vieille puisque j'ai quasiment, je suis à presque plus de 600 jours dessus.
Ouais.
Ma version, souvent, tu reçois donc entre chaque event. Alors aussi, il y a pas mal de cadeaux des fois. Genre, ben, si tu te connectes tous les jours, tu as des bonus. Ouais. Et des fois, tu reçois 5 énergies. Et donc, comme à partir de 5 énergies, tu peux aller recruter, du coup, tu peux aller chercher un nouveau personnage. Et comme c'est au petit bonheur la chance, tu pries pour avoir quelque chose de bien. Et normalement, ils te disent surtout... comme il y a pas trop, comme c'est le jeu se joue obligatoirement en ligne, il faut une connexion internet. Tu dois, il te donne un code que tu as dans tes options avec un login et un password. Comme ça, si jamais tu changes de device, que tu télécharges le jeu ou que par exemple tu changes, par exemple tu veux plus jouer sur Android mais tu as acheté un iPhone donc tu joues sur iOS, tu prends le jeu. La première fois quand il demande, il te fait est-ce que tu as un compte ou est-ce que tu veux commencer une nouvelle partie. Et attention. Si tu fais une nouvelle partie, tu peux plus revenir en arrière.
Ouais.
Tu peux pas rentrer ton code. Sauf que quand tu as un problème comme le mien, le Xperia qui du jour au lendemain ne veut plus se rallumer.
Oh merde.
Et que t'as pas pu. Enfin si, que tu as déjà utilisé ton code parce que ton code est unique. Une fois que tu as changé de device, moi j'en suis à 3-4 devices où je jouais pour dire à Terra Battle. Donc à chaque fois c'était nickel, je retrouvais ma sauvegarde. Là, vu que mon Xperia du jour au lendemain il s'est pas allumé, et ben du coup j'ai dû tout recommencer à zéro.
Oh, le truc qui fait mal, quoi.
Donc, j'ai plus de 2 ans et demi de jeu parti en l'air. Et du coup, j'ai tout recommencé. Mais en fait, au début, je voulais pas, tu vois, parce que je me dis, putain, attends, j'ai investi, Là, tu vois, j'en chie pour avoir Bahamut alors que je l'ai au level 80 passé. Enfin, tu vois, je l'ai encodé. J'ai énormément de persos que j'ai passé des heures et des heures dessus. Mais en fait, j'ai débloqué des personnages que j'avais jamais vus de ma vie. Donc, je me dis, oh, ben en fait, c'est pas trop... Bon, allez. Tant pis, je recommence. Et puis du coup, je joue et je continue. Et même, j'ai même découvert ça.
Addictif, quoi, addictif.
Ouais, voilà. Et en fait, c'est le jeu. Je vous jure, je me lève, je dis bonjour sur Twitter. Enfin, après avoir fait mon petit nettoyage, je me lave et tout. Hein, je dis bonjour sur Twitter et c'est la première chose que je fais. J'allume le jeu, je me connecte pour avoir mon bonus. Je pars bosser. Comme j'arrive une heure à l'avance à mon boulot pour préparer le café pour mes stagiaires et tout. Je commence et je me fais mes petites parties. Et ça, c'est tous les jours. Un peu à l'époque, comme je faisais avec Punch Quest, quoi. Donc, pour vous dire que, voilà, Terra Battle, c'est vraiment un jeu que je vous conseille. Vous allez voir, le tuto, il est hyper bien fait. Donc, vous avez pas mal de bonus de débutants au début. Ça, c'est sympa. Vous pouvez obtenir, je crois, dès le début, un personne Z. C'est ce qui m'est arrivé. Non, SS. Et en plus, c'est une healeuse. Donc c'est assez sympa.
Oui, ça aide de suite.
Donc voilà, Terra Battle, c'est un peu mon chouchou, quoi.
Ouais, on l'a senti vraiment. En même temps, ça a l'air hyper complet, quoi. Ça a l'air vraiment cool.
Et ouais, et encore, j'ai pas trop développé parce que demain on y sera encore.
Il y a même un qui est fait dessus. Je regardais ça tout à l'heure. Il y a même un artbook qui a été fait. Enfin, c'est juste magnifique. Tu vois,
ah oui, mais ils vendent même hyper, des lithographies à $219, quoi.
Ah ouais. Ouais, mais en même temps, il est magnifique, quoi.
Bah oui, bah vu les artistes.
C'est ça.
Donc voilà, c'était le 139e de Game in the Pocket. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc, comme d'habitude, si vous avez découvert un jeu grâce à nous, bah, faites-le savoir sur iTunes, Google Play, Twitter, Facebook, comme vous voulez. On a pas mal de retours à ce niveau-là. N'hésitez pas à commenter, à noter l'émission sur iTunes ou tous les autres supports sur lesquels vous écoutez, comme Podcast Addict ou autre, hein, ou Earth is Hat, ou Tap White. On remercie bien sûr nos amis de Vita Pero, sans qui on pourrait plus trop enregistrer, qui nous prêtent joyeusement l'Homme Humble.
Oui,
donc ça,
merci.
C'est hyper sympa de leur part. On a toujours pas envoyé la caisse de vin, mais bon, c'est bientôt Noël, on est en train d'y penser. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur la page fan Facebook Game in the Pocket, la page G+, Games Pocket sur Twitter, contact@gameinthepocket pour nous envoyer, nous insulter, nous dire qu'on est bien et tout ça par mail. Bien sûr, sur Earthistat et Taprite. Et on remercie Jémé Rémy, alias Pépez, mais je vous mettrai mieux son underscore avec tous les underscores qu'il faut pour son compte Twitter, d'être venu dans l'émission. J'espère que ça t'a plu.
Merci pour l'invitation, très gentil, ouais. Parfait, ouais. Bonne équipe. On sent bien intégré, c'est sympa.
Ouais, y a pas de problème.
Bah surtout que Jérémy, ça fait un bon moment qu'on se connaît sur Twitter, donc du coup...
C'est ça concrétise en effet de longues années presque même, je pense, sur Twitter, ça doit faire quelques années, donc en effet,
ouais, parce que
c'est sympa de venir ce soir.
Ouais,
ce
c'est
soir,
ça, moi ouais, ça. Voilà, c'est hyper bien à ce niveau-là, donc je pense qu'on va essayer de faire ça plus souvent, d'inviter, on l'avait déjà fait il y a très longtemps, d'inviter quelqu'un pour parler d'un jeu... Et je trouve que c'est assez fun, comme ça vous n'avez pas que nos avis, et en plus c'est un jeu qui est d'actualité, que tout le monde connaît, et voilà quoi.
Je vois pas pourquoi tu dis ça, franchement, c'est un jeu hyper inconnu qui vient à peine de démarrer, petite licence.
Ouais, j'avoue, il n'y a même pas de merchandising. C'est...
Pas du tout, je crois que j'ai jamais vu un merchandising, j'ai pas vu une seule peluche, un mug, pas de t-shirt.
Même pas des pyjamas.
Des pyjamas, tout ça, c'est vrai.
Je crois qu'ils ont même pas de dessin animé, enfin que dalle quoi.
Non, que dalle.
Non, c'est ça, non, pas de film ni rien du tout quoi.
Voilà, c'est la loose totale. Franchement, Nintendo, c'est un gros bide.
C'est un gros bide.
Si jamais le SEM de Nintendo il arrive qu'à la fin de l'épisode, il va rien comprendre quoi.
J'avoue, ouais.
Donc sur ce, on conclut ce 139e épisode, et si jamais on arrive à poster l'épisode avant le Toulouse Game Show et que vous me voyez au TGS, faites-moi coucou, de toute façon je vais déambuler dans ce super salon de jeux vidéo. Et sur ce, je vous dis bon Mobile Gaming et ciao tout le monde.
Ciao, ciao.
Et ciao.